Nous accueillons maintenant Eliane au 3921. Bonsoir Eliane.
Je suis contente de vous entendre. Je vous appelle parce que j'arrive pas à m'enlever de la tête une dame qui s'appelait Magali, je crois, la semaine dernière.
Oui.
Qui a appelé, je crois qu'elle habitait Angers et que son fils faisait des études à Rennes et qu'elle passait son temps à ruminer des vieilles histoires du passé et elle se faisait harceler par sa famille et elle était elle allait très très mal,
oui,
elle était
oui,
malheureuse.
Oui.
Vous vous souvenez d'elle et elle n'arrêtait pas de se dévaloriser et de dire que c'était de sa faute.
Oui, ouais, je me souviens très bien. Oui.
Et je ne peux pas me l'enlever la tête parce que j'étais comme elle il y a 10 ans en fait. Et puis j'en suis sortie toute seule comme une grande. J'étais pareille. J'arrêtais pas de me dévaloriser, j'arrêtais pas de ruminer sur le passé, j'arrêtais pas de... Voilà, vous voyez, j'étais vraiment dans le 36e dessous et... Et puis, ben voilà, il s'est passé des choses dans ma vie. Il s'est passé, j'ai eu des gros problèmes de santé. Et après une opération assez grave, quand je me suis réveillée à l'anesthésie, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer ma vie comme ça, quoi. Il va falloir que les choses changent. Je veux plus être victime, je ne veux plus me laisser faire. Il faut trouver une solution parce que, voilà, j'accumulais les galères et tout, et il m'a dit, bah non, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me suis dit, je ne vais pas aller voir tous ces gens-là qui sont censés vous aider, vous apporter du bien-être, du bonheur, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Quel type de quelle personne parlez-vous, par exemple?
Ah bah, il y a certains psychothérapeutes, parce que j'ai donné dans la psychothérapie, et j'avais vraiment l'impression que c'était de la conversation de salon. Et ça ne m'a pas du tout aidé ni quoi que ce soit, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Je suis même allée voir un chaman, vous vous rendez compte, j'en étais arrivée là, quoi. Donc, que lui m'a expliqué, qu'il m'a dit bien évidemment ce que j'avais envie d'entendre. Mais ce genre de personnage, vous voyez, tous ces gens qui ont des... qui prodiguent des... Enfin, les gens qui vont embrasser les arbres, les gens qui chantent à la lune le soir, vous voyez, ça n'apporte rien, en fait.
Cela peut être... je ne dis pas que ça marche, mais cela peut être une manière de se stimuler l'esprit, d'un début de stimulation. Je ne suis pas du tout contre... n'importe quelle option, vous voyez, en fait, c'est ce que je disais à Magali la semaine dernière. Essayez de faire des choses pour vous, des choses qui vous font du bien. Lorsque vous évoquez ces gens qui embrassent les arbres, qui enlacent les arbres, je sais que beaucoup y trouvent leur compte. Voilà, et je le dis souvent, chacun fait ce qui lui plaît. Je pense que ça n'était pas votre truc à vous, mais l'important, c'est qu'à l'époque, vous avez visiblement su à l'épuiser quelque part. Donc,
J'ai essayé. Mais bon, quand on rentre chez soi le soir et qu'on ferme la porte, eh ben, on retrouve ce qu'on avait avant. Et ça, sur le coup, c'était bien, c'était sympa, on s'est fait plaisir. Mais après, le soir, le lendemain matin, ben, on retombe dans nos habitudes, nos façons de penser, nos façons de se comporter, de réagir et tout. Et il faut retourner voir les gens, retourner faire des choses pour se sentir mieux. Je voulais pas de ça, en fait. Je voulais trouver une solution plus personnelle, plus interne. Vous voyez, c'est...
Oui.
J'essayais de m'en sortir toute seule, en fait.
Et est-ce que ça a marché, toute seule?
Ouais, bien sûr que ça a marché. Ouais. Ah oui, ça... Bah, écoutez, là, je suis positive. Voilà. Du jour au lendemain... Enfin, pas du jour au lendemain. Ça m'a pris des années, ça m'a pris des mois. Mais c'est... Je me suis accrochée à cette idée que je pouvais m'en sortir toute seule. Alors, à l'époque, comme j'allais mal et tout, c'était comme Magali, je prenais tout un tas de psychotropes de toute espèce, hein, voilà, comme beaucoup de gens. Pour se calmer, les médecins, ils vous disent, bah, prenez ci, prenez ça, ça va vous faire du bien. Bon, c'est vrai qu'on est des zombies, donc on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe autour de soi, mais on agit, on vit, quoi. J'allais au boulot, je rentrais à la maison, je faisais ce qu'il fallait, etc. Mais ce n'est pas une vie, ça. C'est vraiment... C'est artificiel. On se sent plus ou moins bien, mais on sait très bien que c'est pas naturel, bien évidemment. Donc ça ne peut pas, à long terme, je veux dire, je me voyais pas prendre des ce genre de trucs pendant 40 ans ou 20 ans, 30. Vous voyez, je voulais trouver un truc. Alors j'ai décidé d'arrêter toute seule de prendre tous ces psychotropes.
Oui.
Déjà, j'ai commencé par ça. Et comme il ne faut pas arrêter toujours en main, parce que bien évidemment, c'est dangereux, j'ai été voir sur Internet comment il fallait faire pour les arrêter. Et puis, l'un après l'autre, ce qu'il faut faire, c'est, au lieu d'en prendre un tous les matins, il faut en prendre un jour sur deux, un jour sur trois, un jour sur quatre, un jour sur cinq, un jour sur six et un jour sur sept. Donc, ça prend quand même plusieurs semaines, parce que pendant une semaine, on en prend un jour sur deux, la semaine d'après, on en prend un jour sur trois, et vous voyez. Puis après, on arrête de prendre ce fameux comprimé et on en attaque un autre, qu'on prenait, par exemple, le soir ou le midi, n'importe. Et pareil, de la même façon, première semaine, on en prend un jour sur deux. Après, un jour, la deuxième semaine, un jour sur trois, un jour sur quatre, un jour sur cinq. Et finalement, on arrête. Et on se rend compte que ça n'a pas d'effet vraiment sur notre ressenti et sur notre vécu, en fait. Ça, on ne sent pas vraiment la différence. Et donc, j'ai arrêté tous ces trucs que je prenais. Là, ça m'a pris plusieurs mois. Et puis après, je me suis dit, bon, ben ça, c'est fait. Je vais plus... Alors déjà, j'étais beaucoup plus lucide au quotidien, bien évidemment, parce que... Au boulot, tout ça, j'ai senti la différence, hein, parce que je ne prenais plus tous ces médicaments, tous ces trucs-là. Et je me sentais beaucoup mieux. Et après, j'ai dit, bon, ben, ça c'est réglé. Maintenant, je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Et j'ai commencé par mettre de l'ordre chez moi, tout simplement. Parce que c'était le bazar. Il y avait des fringues partout, le ménage...
Comme chez Magali, vous avez raison, ça fait résonance. C'est ce que Magali nous a raconté la semaine dernière.
Ouais. Bah oui. Et donc, après, j'ai dit, j'ai fait le ménage chez moi. Donc, je fais du rangement. Ça m'a pris plusieurs week-ends. Hein. Comme je travaillais toute la semaine, je me prenais des week-ends entiers. J'ai fait j'ai jeté, j'ai rangé, j'ai lavé, j'ai mis de l'ordre partout. Alors, en mettant de l'ordre dans mon appart, j'ai mis de l'ordre dans ma tête. Ça m'a occupée pendant des journées. Et après, je me sentais bien chez moi parce que c'était nickel, c'était sympa, c'était agréable. On avait envie d'y vivre. Donc déjà, j'avais du plaisir à rentrer chez moi le soir parce que j'avais fait le ménage chez moi tout simplement. Et il n'y avait pas de fringues qui traînaient partout. Donc, ça ne tient pas grand-chose. Hein. Et ça ne coûte rien. Donc ça, c'était le deuxième tri que j'ai fait. C'est le tri dans ma vie quotidienne. Et après, j'ai fait le tri dans mon carnet d'adresses. Ah bah oui. Alors, je suis bien élevée, on m'a bien élevée, on m'a toujours dit d'être polie avec la dame et le monsieur et de ne pas faire d'esclandre. Donc, les gens dans mon entourage, que ce soit professionnel ou amical ou familial ou autre, qui passaient leur temps à se plaindre, à râler, voilà, qui étaient négatifs, et ben petit à petit, j'ai arrêté de leur parler. On m'envoyait des messages, je répondais, mais quand on m'invitait, je disais non. Et pour x, y raison. Mais j'ai arrêté de côtoyer ces gens-là qui étaient négatifs. Mmh. Et tous ces gens-là, sans le savoir, ils avaient une emprise sur moi. Vous voyez, tous ces gens qui... Que les gens me parlent en bien ou en mal, ils avaient une emprise sur moi. Et les gens qui me parlaient, qui étaient négatifs, moi aussi, je le devenais. Moi aussi, je commençais à me plaindre. Et j'en rajoutais trois couches, vous voyez. Donc, c'était pareil. Donc, il a fallu que je me débarrasse de tout ça. Donc, j'ai fait le tri dans mon carnet d'adresses. Ces gens-là, ils ont essayé, ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont arrêté. Maintenant, ils ont passé à autre chose et aussi, ils m'ont oublié. Mm-hmm. Donc, j'ai fait le tri même au niveau de ma famille, au niveau de tout ça. Il y a des gens que je n'ai pas envie de voir, quoi. Puis, j'ai essayé de plus aller les voir et puis je pense que c'est réciproque. J'en sais rien, je n'ai pas essayé de comprendre. Mais je fais ça sans donner d'explication, en fait. J'ai changé toute seule dans mon coin, sans... m'étaler, sans raconter ma vie à tout le monde, sans le dire à tout le monde. J'ai fait ça toute seule, pour moi, parce que c'était pour moi. Hein. Je voulais me faire plaisir à moi et je ne voulais pas que tout le monde soit au courant. C'est vrai qu'à l'extérieur, on voyait tous les jours, on ne voyait pas que je changeais, que j'étais en train de changer. Mais je changeais. Au fond de moi, j'étais différente. Et donc, j'ai fait le ménage autour de moi, dans mes relations et tout ça. Et puis, je me suis posée, je me suis dit, maintenant, je vais m'occuper de moi, je vais me faire plaisir. Alors, je n'ai pas été riche, hein, j'ai jamais été riche, j'ai toujours été au SMIC toute ma vie, donc j'ai jamais eu trop d'argent. Mais je me suis dit, alors c'était avant le confinement, tout ça, parce que ça m'a pris plusieurs années pour en arriver là. Donc, je me suis dit, je vais me faire plaisir, qu'est-ce que j'aimais? J'aimais bien le culturel, les musées, les choses comme ça, certains films. J'allais au cinéma, mais je n'allais pas voir les blockbusters américains. Je choisissais vraiment des films que je savais allaient me plaire. Je me faisais des petits tranquilles toute seule dans mon coin, sans rien dire à personne. Je prenais le train le matin, je revenais le soir. J'allais dans d'autres régions de France. Je découvrais autre chose, je voyais autre chose, je m'ouvrais l'esprit sur autre chose. Et je revenais, ben j'étais contente de mon petit voyage. Vous voyez, c'est des petites choses. Alors, j'allais pas très loin parce que j'ai pas trop de sous, mais j'ai décidé de me faire plaisir. Et si autour de moi, bon, pareil, mes collègues, tout ça, ils sont du genre à raconter leur malheur, raconter leur vie, les histoires de gamins, de mari, de belle-mère et tout ça, j'essayais même pas de les écouter, je les fuyais en fait, parce que avant, que ce soit au réfectoire ou n'importe, on écoute les gens poliment, mais là, j'avais décidé que c'était terminé. Je n'allais plus écouter tous ces gens-là. Parce que ils étaient trop négatifs pour moi, donc je ne voulais que du positif autour de moi. Et aussi, après, quand j'avais fait le tri, tout ça, tout autour de moi et tout, que je commençais à me sentir mieux et à penser à moi, à m'occuper de moi, tout ce qui était télé, radio, machin comme ça, c'est pareil, j'ai fait le tri. Ça fait 5 ou 6 ans que je ne regarde plus les infos, que je n'écoute plus les infos à la radio. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Je le sais, parce que les gens en parlent autour de moi, donc automatiquement, je sais ce qui se passe. Mais j'entends simplement ce qui est absolument nécessaire et indispensable. Comme là, pour le confinement, comme il se passe des choses, je suis quand même obligée de me renseigner. Mais j'écoute la radio, là, comme à Europe 1, ça dure 5 minutes toutes les heures. J'écoute les 5 minutes et après, je passe à autre chose. Et la télé, c'est pareil. Je ne regarde plus toutes ces émissions qui font peur, qui font envie, qui font honte et qui font vendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne regarde que des émissions sympathiques, des trucs... voilà, la nature, les animaux, les machins. Mais j'essaye d'éviter tous ces trucs qui font du mal.
Oui, qui
sont anxiogènes. Et pas simplement anxiogènes dans le sens qu'ils font peur, parce qu'il y a des émissions qui font peur, bien évidemment. Ça les amuse tous d'aller voir les flics défoncer les portes dans le 9-3 et ça fait rire tout le monde. Moi, je trouve pas ça intéressant. Moi, j'aimerais bien aller voir défoncer les portes dans le 16e, mais je pense qu'ils le feront jamais. Mais bon, ça, c'est toute notre histoire. Mais donc, il y a des émissions comme ça qui sont anxiogènes. Il y a des émissions aussi qui font honte, c'est-à-dire... On va interviewer des gens qui ont des problèmes, etc., et qui élèvent mal leurs gosses. Alors, on envoie le grand frère élever les ados, et puis on envoie la nounou élever, montrer comment élever les gosses et tout ça. Ça c'est faire honte aux gens, ça. Je trouve que ça ne devrait pas exister. Parce qu'on met les gens en face leurs faiblesses, leurs difficultés, et puis, bon, sans connaître vraiment... ce qu'ils ont en eux, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait. Ils font de leur mieux, ces gens-là, mais on leur met quand même devant la télé, tout ça. On leur montre qu'ils sont incapables quelque part. Voilà, et ils ne trouvent pas ça bien, quoi.
Ouais, l'émission Panique en cuisine, là, c'est, souvent, ça me met assez mal à l'aise, en fait, ce type d'émission.
Bah, je ne regarde pas Panique en cuisine, parce que moi, la cuisine, je m'en fous. Je ne cuisine pas,
non,
ça ne m'intéresse
pas.
C'est une émission... Je ne savais pas que c'était une émission aussi qui pouvait être anxiogène.
Non, mais j'aime beaucoup Philippe Etchevez. Par moments, en fait, je trouve ça assez brut, la manière dont il parle à des gens qui sont... dans des restaurants où ça part un peu à volo. Et il leur réexplique comment... remettre de l'ordre dans tout ça, mais la manière dont il le fait, c'est assez brut de pomme, quoi. Et à chaque fois que je tombe là-dessus, ça me saisit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me met mal à l'aise.
Enfin, je sais pas, je connais pas le nom, mais c'est ce monsieur qui hurle, parce que j'ai vu des zappings et des machins comme ça. Et c'est lui qui hurle sur les gens comme ça.
Oui, il est pas content. Il est pas content.
Ah ouais, non. Ah oui, non, mais ce genre de truc, c'est pour ça que je regarde pas. Parce que quand j'ai vu cette espèce de personnage hurler sur des gens alors qu'il n'avait fait de mal à personne, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend, quoi? Il y a quand même d'autres façons de s'exprimer, quoi. Donc, bon, voilà. Bon. Donc, ça pour vous dire que tout ce genre d'émissions, machin, moi, je zappe tout ça. Je peux pas, quoi. Et les émissions qui nous font envie, bah, c'est toutes les émissions bling-bling qui nous montrent les gens qui vivent au bout du monde, qui fréquentent les palaces, etc., qui réussissent à Las Vegas ou je sais pas où. Mais on s'en fout, quoi. Nous, on vit dans notre banlieue et on gagne 1000 euros par mois. Et qu'est-ce que ça nous intéresse? Enfin, je veux dire, moi, ça m'intéresse pas, ce genre de truc.
Je comprends.
C'est 80% des gens, ils iront jamais à Las Vegas ou ils iront jamais au Maldives et tout ça. Qu'est-ce qu'ils en ont? Alors, ils veulent, soi-disant, qu'ils veulent faire rêver les gens. Ça fait pas rêver les gens, parce que moi, ça me fait pas. Genre de truc, ça m'a jamais fait rêver de
ça
voir.
Ça crée de la frustration pour vous?
Plus que, c'est pas de l'envie, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je pourrais jamais aller là-bas. Alors voilà, donc en fait, la télé n'est pas faite pour les gens vraiment, les gens qui la regardent, c'est fait par des gens qui veulent se faire plaisir, vous voyez. En fait, c'est fait par des gens qui montrent eux ce qu'ils font, ce qu'ils pourraient faire et parce qu'ils ont les moyens de le faire. Donc ils montrent un petit peu les endroits qu'eux ils connaissent. Ils montrent les choses qu'eux, ils aiment, et puis ils ne pensent pas aux gens qui regardent.
Il y a plein de choses, hein, vous savez, à regarder. Il y a des documentaires animaliers, il y a des documentaires géographiques. On peut trouver en tout cas des chaînes qui correspondent à une envie de voir, aussi de voyager, c'est sûr, mais par les images. Hein. Je ne pense pas que ça soit une envie de frustrer les gens, par exemple, ça. Mais par contre, je suis parfaitement d'accord avec vous que les trucs bling-bling, les voyages à Las Vegas...
Ah oui, non, mais bon, c'est tout, quoi. Le mec qui... Oui, non, mais voilà, donc... Mais ça fait du mal aux gens qui sont dans leur canapé et qui n'ont pas trop de moyens et qui regardent ça. Alors, bon, ils le regardent parce qu'ils ont l'habitude de regarder. Je nommerai pas les chaînes parce que, voilà. Donc, il y a des chaînes que je ne regarde jamais. Ça, c'est clair.
Bon, si, vous pouvez les nommer. Vous pouvez les nommer.
Ah non. Bah déjà, TF1, c'est niette, archi niette et 100% niette, c'est pas possible. Mmh. Ça, c'est pas possible. M6, c'est des gros pointillés. Hein.
Ce que j'aime bien,
il y a un truc. Je vais vous dire ce que j'aime sur M6, c'est le scène de ménage. J'adore scène de ménage.
Bah, mais bon, voyez, à part ça, il n'y a pas. Vous voyez, il y a quand même des choses qui vous plaisent.
Oui, mais parce que ça me fait rire, que c'est positif. Vous voyez, c'est pas anxiogène. Donc, comme je suis confinée, que je peux pas trop sortir, moi, vu mes problèmes de santé, je suis obligée d'être confinée, donc je regarde la télé. Mais bon, à part ça, c'est vrai que j'évite toutes ces émissions qui font mal, qui font du mal, en fait, qui font plus de mal que de bien aux gens, en fait. Et des gens qui ont déjà des soucis, qui ont des problèmes, qui ont des angoisses, des inquiétudes, et on leur plaque des trucs comme ça à la télé, c'est pas bien. Je trouve que c'est pas net. Hein. Franchement, c'est pas bien. C'est tout. Hein. Il y a sûrement de la clientèle pour ça. Mais c'est pareil pour la radio. Vous savez, j'écoute plus les radios françaises. Moi, j'écoute la RTBF. Ils sont formidables, les Belges. Ils sont positifs, ils sont drôles, ils ont de l'humour et ça fait du bien. Eux aussi, ils ont le Covid, mais bon, ils en parlent. Mais je veux dire, ils le font d'une manière sympathique et détendue.
Les Belges ont un sens de la dérision et... Il y a un combiné de choses chez les Belges. Il y a d'abord, sont des gens très bien élevés, je trouve. Il y a beaucoup d'éducation. Ouais. Il y a beaucoup de. Bah, ils ont hérité aussi de plein de choses, des bonnes choses de la Hollande, vous voyez, des Pays-Bas, de toute l'Europe du Nord, en fait. Et puis ils ont pris aussi les bonnes choses méridionales de la France, de la Suisse, de l'Allemagne.
Ils ont pris les bonnes choses des pays qui les entourent, en fait.
Exactement, exactement.
Et puis en plus, c'est un royaume. Alors, je ne voudrais pas dire que voilà, il faut un royaume pour aller bien. Non. Mais déjà, je vais vous dire pourquoi c'est bien un royaume. Parce que il y a une figure tutélaire qui est au-dessus des partis, au-dessus de tout, et qui c'est intemporel, quoi. Les droits se succèdent. C'est comme la reine d'Angleterre. Je veux dire, tout le monde l'a connue. Je veux dire, c'est intemporel. Et le s'il n'y avait pas la reine d'Angleterre, il y a longtemps que l'Angleterre serait à feu et à sang, il y aurait des guerres civiles là-bas. Mmh. Mais ce qui maintient le pays dans son unité, c'est cette personne qui domine tout, qui ne change pas et qui est rassurante et qui fait la fierté du pays et son unité. Et les Belges, c'est pareil, quand ils parlent de leur roi, ils ont du respect. C'est mon idée, hein. On en pense ce qu'on veut, mais ce sont des gens qui sont rassurants pour leur population. Hein, quoi qu'il arrive, il y a toujours le roi derrière ou la reine. Enfin, il y a quand même un espace où quand même rien ne change et tout va bien, quoi. Donc nous on n'a pas de roi. Bon, on a des présidents. Alors ils changent régulièrement, mais on fait avec. Mais je trouve que d'avoir quelque chose d'intemporel dans une culture, je trouve que c'est bien quand même.
Bon, il en faut de toute façon pour tous les goûts, hein, ma chère.
Oui.
C'est sûr que il y a des émissions à succès et je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent un peu dans tout, les goûts et les couleurs, vous savez.
Je critique pas, je dis pas que c'est mal, ni quoi que ce soit. Je dis que moi c'est mon choix parce que moi je veux me protéger de beaucoup de choses. Donc j'évite tout ce genre d'endroits, tout ce genre de trucs qui pourrait me contrarier d'une façon ou d'une autre, vous voyez, c'est pour ça. Donc, mais les gens font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de distance, surtout, en fait.
Oui, vous voyez, en fait, je vais vous lire un SMS, là, au 739-21, de Marie Tam Tam, qui nous écrit, « Bonsoir, Pascal, je suis choquée de vous entendre critiquer un grand chef. Oui, il crie, mais il a aidé des amis restaurateurs et beaucoup bien d'autres. Vous avez raison, Marie Tam Tam. Et en plus, là, elle m'adresse un petit truc pour moi. Et votre émission, on en parle. Appelez-nous, Marie Tam Tam, on peut en parler. Il n'y a aucun problème. On n'est pas à critiquer. On dit juste qu'il y a des choses qui plaisent.
Oui, c'est des constatations. C'est
oui,
juste, voilà.
Enfin, chacun retrouve dans des programmes. Bon, voilà, il y a des gens qui.
Oui,
aiment,
chacun regarde ce qu'il veut, parce que les gens regardent la télé beaucoup, donc chacun regarde ce qu'il veut. Mais je veux dire qu'si on veut se sentir mieux dans son quotidien en tant qu'individu, il faut savoir se détacher de certaines choses.
Et puis il faut savoir prendre ce qu'on a envie de prendre, surtout, et pourquoi,
voilà.
Savoir pourquoi on le prend. Je pense que,
voilà.
Je pense que la télévision, la radio restent des médias qui, sur lesquels, aujourd'hui, plus que jamais, on peut aller prendre de l'air aussi, un bol d'air. Encore une fois, je vois sur France 5, sur la chaîne Géo, il y a tout un tas de documentaires qui quand même vous parlent de l'histoire, du monde animalier.
Oui, il y a des choses. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc je regarde la chaîne Histoire, toute l'histoire et tout ça, j'aime beaucoup. Alors, je ne regarde pas tout parce que tout ne m'intéresse pas, mais c'est autre chose que... Voilà, que TF1, quoi. Bon, je suis désolée, mais je reviens toujours à TF1 parce que c'est un exemple quand même assez connu. Et les gens regardent beaucoup TF1, mais franchement, dites-moi quelque chose de bien sur TF1. Enfin, je ne sais pas, je ne regarde pas, donc je ne peux pas juger. Mais est-ce qu'il y a vraiment des émissions qui peuvent vraiment...
Il y a Koh-Lanta qui est bien sûr...
Ah ouais. Ah oui, Koh-Lanta.
Je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent vraiment dans Koh-Lanta où on a un retour... De toute une bande de garçons et de filles venant d'horizons différents, tout à coup, qui sont confrontés à l'abandon de notre société de consommation, de tout ce dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Et en plus de ça, ensuite, qui sont confrontés à la stratégie, au jeu, tout ça mêlé au manque de nourriture. Moi, je trouve que sociologiquement, c'est un programme qui est très intéressant. Mais voilà, mais encore une fois, voilà, j'en parlais cet après-midi avec une amie et elle me disait, mais moi, je peux pas regarder ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est alors que moi, j'aime bien regarder. Voilà, je regarde pas depuis longtemps, depuis le confinement. Je vais vous dire, je suis tombé dessus pendant le confinement. Et ben, j'ai trouvé, j'avais jamais pris le temps de regarder. Et c'est vrai que, en tout cas, vous vous y prenez. C'est pas le jeu hein, qui gagne, qui perd, on s'en fout.
Oui, mais vous prenez au jeu, vous avez envie d'aller voir jusqu'au bout. C'est comme un feuilleton, en fait, vous avez envie de savoir, de voir la fin.
Oui, exactement. Et puis comment se comportent les uns avec les autres, pourquoi ils se comportent comme ça. Assez... bon, voilà. Mais encore une fois, on s'est éloigné un peu de notre discussion originale, mais c'est vrai que ces médias-là peuvent être anxiogènes autant qu'ils peuvent... Ils peuvent être aussi un bon bol d'air, vraiment.
Ah oui, il y a des, je sais que je regarde des trucs quand même. Il y a des émissions qui sont sympas, c'est sûr, mais il faut bien choisir. Il faut regarder partout, faut tout. Moi, je zappe, j'ai un bouquet. Bon, voilà, pas très important, mais bon, je peux zapper quand même. Je trouve des choses intéressantes. Mais bon, il faut vouloir le faire parce qu'il y a des gens qui me disent oh ben moi j'ai l'habitude de regarder tel truc, je regarde quoi. En gros, c'est ça quoi. Donc,
du coup, en fait, pour revenir à Eliane, vous êtes sortie de tout ça donc en faisant le ménage quand même au niveau des relations, au niveau donc des choses que vous écoutiez ou regardiez. Dans quel autre domaine vous avez été chercher de l'énergie?
À partir du moment où j'ai fait le tri, comme j'ai gardé comme ami, enfin, je ne parle qu'à des gens qui sont sympathiques, qui sont positifs et tout, donc c'est très bien. Ça m'aide au quotidien, bien sûr. Il faut, je vis pas comme un ours non plus. Hein. Donc j'ai gardé des relations, mais que des relations sympathiques. Mais pour le reste, c'est-à-dire que je me sens bien dans ma vie maintenant, hein, avec que j'ai, voilà, depuis que j'ai fait le vide et tout ça, et que je me drogue plus de, avec des médicaments et tout ça, je me sens bien dans ma vie. Et puis, ce qui se passe, surtout avec le confinement, moi j'ai bien vécu le confinement, hein, ça m'a pas embêté du tout, hein. J'ai dit cool, enfin j'ai pas dit c'est super, j'ai pas dit ça, mais je me suis dit bon, aujourd'hui c'est ça, c'est pas la peine, je me projette plus dans l'avenir, je ne fais pas de plan sur la comète, je me mets plus à la place des gens en disant ouais, qu'est-ce qu'il va penser machin si je dis ci, si je fais ça. J'ai dit oui, mais il faut que je fasse attention parce qu'il y a un truc qui va venir aussi, donc il faudra pas que je lui parle de ci, de ça, oh là là.
Vous avez lâché prise sur pas mal de choses quand même.
Ah ben ça, c'est ce genre de truc, je ne me projette plus, c'est terminé.
Ah oui, ça c'est une très bonne chose. Vous vivez chaque jour, un jour à la fois.
Alors, tout le monde le dit, ça fait des dizaines d'années qu'on nous le dit, il y a eu Carpe Diem, il y a eu chaque jour suffit sa peine. Alors, vous voyez toutes ces formules toutes faites là. Mais quand on les vit au quotidien, c'est formidable. Vous voyez, c'est... Ouais, ouais. Vous voyez, j'ai perdu mon téléphone aujourd'hui. Je l'ai oublié au supermarché.
Mm-hmm. Vous l'avez pas retrouvé ?
Alors j'aurais pu mon Dieu, mon téléphone. Ah, parce que voilà, en plus j'ai toute ma vie dedans et tout. J'ai dit, je me suis dit bon, j'ai perdu mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? D'où je viens? Je viens du supermarché. Donc j'ai pris mes clés. Je suis à 5 minutes du supermarché. Je retourne au supermarché. J'ai dû voir le vigile. J'ai dit écoutez, j'ai perdu mon téléphone. Je crois que s'il est quelque part chez vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit donnez le numéro. Je vais le faire sonner. Et puis on a fait le tour des rayons. Là, je l'avais posé et on l'a retrouvé. Mais bon, je ne me suis pas mis la rate au courbouillon, comme on dit.
C'est très bien.
Je me suis dit, il n'est pas perdu. Bon, il y aura peut-être un petit malin qui va le voler, puis il va disparaître. Mais bon, c'est un téléphone. Mais il y aura peut-être des gens honnêtes aussi qui vont le trouver et puis qui vont le donner à l'accueil. Pourquoi pas? Et puis en fait, non, il était où je l'avais posé, parce que je sais plus pourquoi j'avais posé là. C'était dans un rayon quelconque. Et puis apparemment, personne l'avait vu. Et puis donc, avec le vigile, on l'a retrouvé en 5 minutes chrono, on avait retrouvé mon téléphone, je suis rentrée chez moi, j'étais contente. Mais ça ne m'a pas rendue malade, quoi. C'est vrai que c'était contrariant, c'est normal, hein. Un téléphone, on fait beaucoup de choses avec, c'était contrariant, mais c'est tout, quoi. Et puis je suis contente de l'avoir retrouvé, autrement on n'aurait pas pu se parler ce soir, parce que je n'en ai pas d'autre. Mais c'est vrai que, vous voyez, je ne dramatise rien.
Vous relativisez.
J'ai du recul, mais alors un recul...
Et vous n'étiez pas du tout comme ça avant?
Oh, mon pauvre, si vous saviez.
Ah bon?
Tout, je m'inquiétais de tout. Alors je m'inquiétais des autres, puis aussi je m'inquiétais pour les autres. Hein. Et machin, et trucs, et... Mais oh, je pensais pas à moi, en fait, je pensais aux autres. Je disais, oui, mais tu te rends compte, il vit seul, il a des problèmes de santé, qu'est-ce qu'il va... J'ai arrêté tout ça. Alors c'est pas que je m'inquiète pas des gens. Mais je pense pas, mon cerveau n'est pas plein de tout ça, en fait. Mon cerveau est plein de choses qui m'intéressent, moi. Alors, c'est pas de l'égoïsme. Hein. Je m'occupe de moi. Je me fais plaisir à moi. Je m'entretiens, moi. Mais c'est pas de l'égoïsme, parce que je m'intéresse aux gens et tout. Mais dans ma tête, il n'y a que l'essentiel.
Oui,
voilà.
Et c'est ce que je disais à Magali la semaine dernière, c'est que pour aller mieux, en tout cas, il faut pouvoir se faire ce cadeau de s'offrir à soi-même des bonnes choses. Et puis, surtout, je lui disais aussi qu'elle avait ça dans ses mains, parce que personne, et vous allez me dire si oui ou non c'était le cas pour vous, mais personne, quand vous vous enfoncez comme ça, que vous êtes seul... Personne ne va venir comme ça, par magie, vous tirer par la main.
Ce que je vous ai expliqué, là, ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté tout ça, c'est que j'ai fait ça toute seule. Ce que je vous dis, j'avais essayé il y a quelques années d'aller voir des gens, des toutes espèces de trucs. Et ça m'apportait. Je me savais que la seule solution, c'était moi qui pouvais me l'apporter, ma solution à moi. Je suis la personne qui me connaît le mieux, on est d'accord. Mm-hmm. Donc, pour m'aider moi, il n'y avait que moi qui pouvait m'aider moi, quoi. En gros, c'est ça.
Quel âge avez-vous, Eliane, en fait? Je ne vous ai même pas demandé.
Mais quelle importance?
Non, mais pas... si, c'est une importance, bien sûr.
C'est une importance pour vous?
Toute personne a une importance pour moi et vous devriez...
Non, mais alors moi, je vais vous dire un truc. J'aime pas qu'on me... Je vais encore... Voilà. qu'on me mette dans un tiroir par rapport, que ce soit par rapport à mon âge, mes origines, ce que je fais comme boulot et tout ça.
Je ne veux pas vous mettre dans un tiroir.
En général, les gens, quand ils racontent leur vie, bah, après, on dit, ah, bah, il a tel âge, il doit faire. Vous voyez, on a tendance à cataloguer les gens.
Non, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que là, vous livrez un témoignage qui est écouté par des milliers de personnes. Et peut-être que beaucoup d'entre elles sont en train de prendre ici et là des choses importantes que vous dites. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des périodes dans la vie où on est plus susceptible d'avoir ces sursauts de vie et d'avoir plus conscience des choses parce qu'on a réussi aussi à identifier tout un tas de choses qu'on n'identifie pas obligatoirement à 20 ans ou à 30 ans, selon aussi si on a partagé sa vie avec quelqu'un ou si on est resté tout seul. Ça ne veut pas mettre des gens dans des cases. C'est simplement important de savoir à quelle génération vous appartenez.
Je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai 60 ans, donc c'est vrai que j'ai de la bouteille, j'ai vu des choses, j'ai connu autre chose, j'ai été mariée. Je vais vous dire, j'ai quitté mon mari. Parce que je lui avais dit, c'est une occasion aussi où je n'avais pas fait de sentiments. Ça n'allait pas très bien entre nous. Je lui avais demandé de partir plusieurs fois. Il ne voulait pas. Je lui ai dit, si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. Il n'a jamais cru que j'allais le faire. Il l'a cru le jour où il a vu le camion de déménagement dans le bas de l'immeuble. Il n'a jamais voulu croire que je le ferais. Et je l'ai fait.
Et c'est très bien, non ?
J'ai tout organisé toute seule. Je n'ai rien dit à personne. Et j'ai prévenu ma famille simplement un mois et demi avant de partir. J'avais tout organisé mon déménagement, j'avais tout organisé ma nouvelle vie. J'en avais jamais parlé, j'en ai parlé à personne. Même pas à mon mari, parce que lui, il croyait pas que j'allais partir. Donc, voilà. Il disait, ouais, c'est du pipeau, tu y arriveras jamais, etc. Surtout qu'à l'époque, j'étais au chômage, j'avais pas un rond et tout. Mais j'en pouvais plus. Et comme il voulait pas partir, j'ai dit, moi, je vais partir. Et voilà, ça s'est décidé comme ça. Et je l'ai fait. Et ça s'est très bien passé. Et si j'étais pas partie, je ne sais pas, peu importe ce qui me serait arrivé, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, depuis que j'ai déménagé, je sens beaucoup mieux. J'ai changé de vie. Alors, ça n'a pas été évident. Après, j'ai vécu cette période où j'ai eu des problèmes de santé et tout. Mais je les ai vécues dans ma nouvelle vie, loin de cet homme. Et je l'ai très bien vécu. Et maintenant, vous voyez, c'est... Comment vous dire, je m'enfonçais quand j'étais avec lui, il a fallu que je parte, donc je suis partie. Mais je n'ai pas fait de sentiment, vous voyez, il ne faut pas se dire, oui, mais si je m'en vais, qu'est-ce qu'il va dire machin, etc. Puis j'ai changé de région en plus, donc c'était compliqué pour beaucoup de gens. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, si tu t'en vas, on ne te verra plus. Je dis, si, quand même, je ne pars pas au bout du monde, donc on peut se voir. Mais j'en ai pas parlé avant parce que je ne voulais pas que les gens me disent mais pourquoi tu pars et pourquoi tu restes pas, on va trouver une solution, nanana. Je voulais que personne se mêle de tout ça en fait, je voulais le faire toute seule moi-même, voilà. Vous voyez, et j'ai tout organisé toute seule en fait et je suis partie. Et puis voilà, je regrette pas d'être partie. Donc
vous voyez, c'est important aussi de donner quelques précisions de ce qu'on a glané à un moment de notre vie. Parce que je pense qu'on ne réagit pas et on n'interprète pas les mêmes choses selon que l'on a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tendance à penser que passé la quarantaine, on commence à relativiser beaucoup plus de choses. C'est ce que je constate, en tout cas d'une manière générale. Pas chez tout le monde, mais tout de même, d'une manière générale, à partir de 40, 45 ans, je trouve qu'il y a une certaine... une certaine analyse, une couleur, je ne trouve pas les mots, en fait.
Oui, parce que là, j'avais 40 ans.
Voilà, les couleurs se patinent.
Ma vie, si c'est ça, pour le reste de ma vie, si ça doit être ça, c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas possible.
Voilà.
Moi, c'est ce que je me suis dit, Et j'étais sur mon balcon, et justement, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais sur mon balcon, et on était fin 98. Et sur mon balcon, et tout d'un coup, je me suis dit, bon, d'une façon ou d'une autre, je ne verrai pas l'an 2000 sur ce balcon, de gré ou de force. Quoi qu'il arrive, je ne verrai pas l'an 2000 sur ce balcon. On était fin 98. Et j'ai déménagé au mois d'août 99. J'ai tout fait très rapidement. Voilà. Et ça s'est bien passé.
Super, super.
Bon, en tout cas, vous... À partir du moment où j'ai décidé de quelque chose, je me mets à fond dedans, quoi. Mais comme je vous ai dit, je le fais toute seule. Parce que je ne veux pas qu'on m'influence ni dans un sens ni dans l'autre. Mmh. Je m'organise toute seule et je fais tout toute seule et je le dis après, une fois que c'est fait.
Et j'entends que vous avez en tout cas acquis la certitude, pour vous en tout cas, que vous avancez beaucoup plus librement et beaucoup plus légèrement et beaucoup plus, de manière beaucoup plus constructive quand vous décidez pour vous, parce que vous avez pris conscience de tout un tas de choses, vous vous écoutez beaucoup plus, vous avez aussi percuté sur le fait qu'il fallait vous écouter plutôt qu'écouter les autres.
Voilà, c'est ça.
Vous ne vous écoutez pas que vous-même, parce que j'entends aussi que vous devez aussi partager par moments avec les personnes en qui vous avez confiance, mais vous avez restreint votre entourage a sans doute un entourage assez pas important, hein, restreint en tout cas, et que maintenant vous avez construit quelque chose de beaucoup plus solide et visible, c'est-à-dire que vous savez où vous êtes, avec qui, où vous en êtes, avec qui et où vous en êtes dans votre vie.
Ouais.
Et c'est justement ce qu'on entendait du témoignage de Magali la semaine dernière, c'est qu'elle faisait trop attention à sa mère, à sa sœur. Elle accordait trop d'importance à tous ses jugements extérieurs.
Voilà,
elle n'était plus
ça.
Du tout centrée sur ce qu'elle pensait d'elle-même. Elle ne pensait plus rien de bon d'elle. Elle ne pensait qu'à travers le regard négatif des autres.
Elle disait, j'ai pas fait d'études, c'est pour ça que j'ai pas réussi. J'en ai pas fait, moi non plus, j'ai eu jusqu'au bac. Hein, j'ai rien fait. Je suis pas. Voilà, mais. J'ai quand même vécu des choses et je me suis dit, parce que bon, j'ai eu des périodes de haut et de bas comme tout le monde, où je me suis laissée enfoncer parce que j'écoutais trop ce qui se disait autour de moi. J'écoutais, je voulais faire plaisir. Quand on veut faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne.
Exactement.
Et en fait, il faut se faire plaisir à soi, en fait. Quand on se fait plaisir à soi, bon, autour, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, ça c'est pas grave. Mais vraiment, c'est plaisir à soi, ben, tout va bien, quoi. C'est le plus important. Mais il y a une période de ma vie, c'est vrai, où je voulais pas blesser ma mère, je voulais pas blesser ma famille, je voulais pas blesser. Mais vous voyez, on pense à tout ça, on se dit, bah non,
je peux pas. Vous avez vu l'épaisseur, hein, de. Alors, je sais pas de quoi, mais en tout cas, l'épaisseur dont vous vous défaisez, dont vous vous libérez, plutôt, c'est plus joli, quand vous n'accordez plus d'importance et que surtout vous décidez que c'en est fini d'être blessé en permanence par ces réflexions, ces jugements. Souvent, en plus, les jugements que vous trouvez sans intérêt, en fait. Et quand c'est émis en plus de gens qui sont proches de vous et même affiliés, hein, à vous.
De la famille et tout
dur,
ça. Ouais.
Voilà. Et Magali, ça passe d'abord par ça. J'espère, si elle nous écoute, qu'elle y a réfléchi et qu'elle aura eu la force de rompre ça, en tout cas momentanément. Mais souvent, ça passe par là, en fait. Ça passe par quelque chose d'assez violent, en fait. Hein, et violent pour tout le monde, hein, même ceux avec qui vous rompez, qui s'y attendent peut-être pas, qui ne comprennent pas vraiment même votre décision, mais n'empêche que c'est une sauvegarde, quoi. C'est sauf qui peut. Hein.
Et puis même si on prend des décisions comme ça très tranchées, catégoriques et définitives, les gens ils disent mais qu'est-ce qui lui arrive tout d'un coup, alors que c'est pas tout d'un coup, ça a été c'est une longue réflexion. Et puis ça, voilà. Mais ça n'empêche pas, c'est pas pour ça qu'on coupe les ponts, quoi. C'est pas parce que je fais ça et que je m'éloigne de 800 km des gens que je les aime pas.
Non, mais on peut couper les ponts aussi. C'est quelque chose qui. C'est une option aussi quand elle est nécessaire. Malheureusement, quand elle s'impose à vous, en fait, et que vous y. Vous constatez que ça n'a fait que d'assainir la situation et que ça vous a apporté de la quiétude. C'est souvent en plus très difficile de revenir en arrière, voire impossible.
C'est pour ça que je vous envoie des SMS de temps en temps pendant l'émission. J'ai un côté assez rentre-dedans et assez tranché quand je m'exprime.
Mais moi, j'aime bien. Hein. Vous voyez, je citais Marie Tam Tam, qui est franche du collier, et souvent elle y va gaiement, et j'en prends, j'en ramasse au passage, mais je ne suis pas là pour qu'on me dise que des douceurs, je suis là au contraire pour échanger, on n'est pas toujours d'accord.
C'est par rapport aux gens qui vous appellent, des fois je suis assez tranchée, alors je ne les connais pas non plus, hein, c'est pareil, on peut en dire autant à mon sujet, mais j'envoie des réflexions, des fois je fais pareil avec Sabine aussi, hein. J'envoie des réflexions, des fois ça tire deux lignes, mais c'est assez rentre-dedans et tranché, et puis voilà, c'est... Alors moi, j'aime
c'est
pas...
C'est pas vous, hier soir, qui m'avez envoyé, c'est long, c'est chiant, si ?
Non, la dernière fois que je vous ai envoyé des trucs, c'était par rapport à un certain Christophe, justement. Alors, je préfère pas revenir là-dessus, parce que bon, voilà.
Non, bon.
On n'est pas là pour ça. Mais il y a des fois... Alors, j'écoute l'émission, il y a des fois des choses... Bon, voilà, je réagis pas. Il y a des fois, je dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et c'est plus fort que moi, j'envoie un petit message.
Mais vous savez, ça encore, ça fait partie de l'adhésion ou pas. Comme on en parlait tout à l'heure pour les programmes, il y a des témoignages qui vont vraiment vous toucher, et puis il y en a d'autres qui vont vous barber. Et encore une fois, c'est là où nous ici, on doit aussi... faire en sorte d'écouter chacun, sans pour autant, enfin en tout cas on fait attention à ce que ça ne devienne pas non plus barbant, mais c'est important que cette notion de pouvoir écouter tout le monde reste la règle aussi.
Oui.
Voilà, c'est juste ça. Eliane, vous pouvez me rappeler quand vous voulez et on discute sans problème. J'ai Sarah qui attend depuis un moment pour.
C'est la fin là. Oh là là.
Ouais, je vais prendre Sarah pour les 10 dernières minutes. Donc je vous embrasse.
Ok, bah moi aussi.
Bravo pour toutes ces décisions et pour cette.
J'espère que ça va aider d'autres personnes.
Cette remontée fantastique. Moi j'aime entendre ça. Oui. C'est merveilleux.
J'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont essayer de faire pareil. Alors c'est pas facile tous les jours, mais bon, voilà.
Vous avez plein de personnes qui vous écoutent ce soir, et je leur dis encore, en vous écoutant et en repensant à tout ce que vous m'avez dit, je dis souvent sur cette antenne que tout est possible. Mais la première étape nécessaire, incontournable, c'est d'abord de le vouloir.
Ah, voilà. Hein ? Ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais c'est vrai que c'est une décision. C'est une décision. Il faut le vouloir et s'y tenir, quoi. Faut pas. C'est comme les gens qui font des régimes et que ça dure qu'une semaine. Ce genre de décision, c'est un truc qu'il faut décider. Mais une fois que c'est décidé, c'est là, ça ne bouge pas tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout, quoi. C'est ça.
C'est difficile. Souvent, ouais. on peut commencer et puis flancher. Mais encore une fois, cette étape de le vouloir, parce que ça n'arrive pas par magie. Et quand je dis que c'est dans c'est dans les mains de chacun. Hein. C'est vraiment dans les mains de chacun. C'est important.
C'est pareil. S'il y a des gens qui veulent mon numéro, moi, je veux bien leur donner. Hein, si ils ont envie de me parler.
Le message.
Voilà, c'est pas...
Le message est passé. Si vous avez envie de parler avec Eliane, eh bien, vous nous envoyez au 739-21 votre numéro. Et on vous mettra en contact.
Par rapport à tout ça, ouais, pourquoi pas.
Très bien. Et j'en profite pour citer notre ami Patrick Leroutier qui... N'oubliez pas de nous rappeler qu'il y a aussi vintage mécanique avec des gens qui font de la moto sur des dunes. D'ailleurs, Patrick, j'ai eu l'occasion de faire cette émission et d'essayer un vieux sidecar russe du début 20e siècle.
Et ça roule encore.
Donc du coup, vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Merci mille fois, Eliane.
Bien, je sais.
C'est fini. Merci mille fois, Eliane. Parce que si je ne vous arrête pas, vous y allez. Moi, je suis un peu pareil, donc je vais prendre Sarah maintenant, d'accord ?
Ok, je vous dis bonne soirée.
Je vous embrasse,
Eliane.
Et
puis à bientôt peut-être. Au revoir.
À très bientôt, quand vous voulez, Eliane. Quand vous voulez.
Pas de problème, je vous rappelle.
Au revoir.
Salut.